Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Salut, bienvenue dans Friendship, le podcast consacré à l'amitié, un podcast avec des nombreux témoignages qui t'accompagnent dans tes relations amicales. Je suis Solène, la créatrice de Friendship, et tu t'apprêtes à écouter un épisode de ma toute première saison. À l'heure où j'enregistre, je prépare la saison 4 de Friendship, et depuis les premiers épisodes, le podcast a bien évolué. Si tu souhaites continuer l'écoute de cet épisode, un grand merci d'avance, mais attention à tes oreilles, le montage n'était pas encore 100% maîtrisé. Merci, dans tous les cas, de rejoindre l'aventure Friendship, et je te souhaite une très bonne écoute. Salut, je m'appelle Solène Rigoulet, et tous les mois, je t'emmène à la découverte d'amitié dans Friendship. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu la première amitié mixte de Friendship, Célia et Hugo. Ils se sont tous les deux rencontrés à la fac à Strasbourg lors de leurs études. Célia et Hugo aiment beaucoup digresser, tu l'entendras, ils prennent parfois plusieurs chemins pour tenter de trouver des réponses à leurs interrogations, digressions qui sont même peut-être liées à leurs études de psycho qui les impactent au quotidien. J'ai connu Célia via son compte Instagram Quel Déchet où elle parle de son cheminement dans une vie zéro déchet et plus respectueuse de la planète. Hugo et elle parlent aussi de ce compte et de sa gestion. Bref, ils se livrent et témoignent de leur histoire. A noter que nous avons enregistré cet épisode début juin, tu l'entendras peut-être, il y aura des bruits extérieurs, mais rien ne t'empêche aujourd'hui de l'écouter sous un bon plaid avec une boisson chaude. Sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Je ne vous oublierai jamais.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.
You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. You can count on me, cause I can count on you.
À quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami.
Pour commencer le podcast, j'ai l'habitude de vous demander de vous présenter, mais souvent j'aime bien demander à l'autre de présenter l'autre. Donc si Célia peut présenter Hugo et Hugo présenter Célia,
oh, pétard.
C'est à vous.
Ouais, alors du coup, Célia, 25 ans, actuellement L3 de sociologie, prépare un concours de journalisme, est originaire des Yvelines, voilà, est arrivée à Strasbourg il y a quelques années, 4 ans si je me trompe.
Ouais.
Et qui a fait déjà une licence de psycho, là on s'est rencontrés. Grande amatrice de musique, en tout genre, de soirées, de copinades, on va dire.
Elle a une super playlist que je pourrais vous mettre dans la description de l'épisode.
Oui. Abonnez-vous à mon Spotify. Et Hugo, qui est né en 98,
qui... Ouf, voilà, je pourrais être sa mère. Et du coup, qui a fait une licence de psycho et qui est actuellement en M1 de neurosciences à l'Université de Strasbourg, qui apprécie la littérature, les chiens, le faux, faire des soupes.
Ouais.
Et faire des soirées techno, qui s'est mis à mixer là, depuis pas longtemps.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que, du coup, vous pouvez nous dire comment vous vous êtes rencontrés, depuis combien de temps vous vous connaissez
C'était il y a 4 ans,
ouais.
Il me semble. On était tous les deux en L2 de psycho. Et bon, moi j'avais déjà fait la L1 à Strasbourg, donc je connaissais déjà de loin une ou deux personnes. Et en fait, on était dans le même TD. Ouais. Et Célia qui venait d'arriver en fait, est arrivée dans la classe de TD, là-bas c'était pas ton TD.
Non, hein, par ordre alphabétique c'était pas le mien, mais le mien était horrible. Je me suis enfuie très vite.
Donc t'es arrivée dans notre TD et je crois que t'es directement arrivée à côté d'Anaïs,
ouais.
Donc, une des filles que je connaissais de l'année précédente. Le courant a très bien passé et puis en fait les fois d'après... on était tous les trois, puis tous les quatre ensemble. À la fin on était un petit groupe de cinq, vraiment tout le temps, dans le même TD, dans les mêmes cours, les mêmes options. Et c'est comme ça qu'on s'est bien connus.
Ouais. Mais je me souviens pas vraiment du moment où c'est devenu un peu plus... Genre, par exemple, est-ce que tu te souviens la première fois on allait boire un verre ensemble ou pas?
Non, je me souviens pas non plus.
Je
crois que ça a mis du temps quand même. Hein.
Ouais.
C'était peut-être au deuxième semestre, un truc comme ça, parce qu'à un
moment,
on faisait toujours les choses à 5.
Ouais.
Et pour moi, c'est devenu assez tardif. Hein.
Ouais. Moi, je me souviens quand même de la première fois où on s'est vraiment parlé, parce qu'à l'époque, t'avais quand même une façon de parler. Genre, je sais pas, mais tu l'as parfois encore un peu, mais il avait une façon de parler vraiment très noble, un peu aristocrate, tu vois. Et je me souviens que j'avais appelé mes potes de Paris en disant, ouais, je me suis fait des amis et tout, mais il y en a un, il parle vraiment comme un daron, genre. T'avais vraiment une façon en mode de, bonjour, c'est Léa.
J'ai oublié cette partie de ma vie.
J'ai fait un déni post-traumatique. Ben en gros, c'était en L2, quoi.
Et du coup, vous étiez avec ce groupe de 5, et c'était quand même facile de vous parler quand vous étiez que à 2, ou parfois vous étiez, qu'est-ce qu'on va pouvoir se raconter, parce qu'on a l'habitude d'être à 5 et à 2.
Ah non, jamais. Moi, j'ai jamais ressenti ça, en tout cas, mais non, il y avait vraiment une facilité de communication entre tous les 5, et je pense qu'on a tous bu des verres ou des cafés juste 2 à 2 dans le groupe, et avec Slay, il n'y a jamais eu aucun souci par rapport à ça.
Non. En fait, ça s'est fait un peu naturellement, le groupe de 5, mais on arrivait très bien à avoir des relations indépendantes dans le groupe, quoi.
Et ça a été un coup de foudre amical ou ça a pris du temps justement de...
Ouais, je dirais pas un coup de foudre amical quand même. Quand est-ce que ça a vraiment changé? Je crois que ça a vraiment changé quand t'étais en L3 et moi en L2. Parce que moi du coup j'ai redoublé après la L2 avec une autre des filles. Et Hugo il est passé en L3 avec les autres du groupe. Et à ce moment-là, on est sortis tout le temps en fait. C'est à ce moment-là que vraiment... Parce que moi du coup...
J'avais plus rien à faire, t'avais retapé, allez.
Mais c'est ça. Mais en fait, comme j'avais retapé, en fait j'ai retapé que le second semestre. Et du coup, j'avais pas cours de juin à janvier. Donc moi, je suis restée en Île-de-France à ce moment-là pour bosser. Et après, quand je suis revenue en janvier, j'avais très peu de cours. Parce que comme j'avais validé pratiquement la moitié du semestre, j'avais genre 4 matières à repasser, un truc comme ça. Que en plus, j'avais loupé de rien, donc bref. Et à ce moment-là, on était un peu plus libres pour sortir et on a fait un groupe un peu à trois avec un autre pote qui s'appelle Florian. Et là, c'était la décadence.
Ouais, c'est vraiment qu'on est devenu un groupe plus réduit où il y avait beaucoup plus de sorties, de rencontres. Que là, on a vraiment bien appris à se connaître, je trouve, et à parler peut-être un peu plus librement. Enfin, même s'il n'y avait pas de contraintes avant, mais je pense qu'on s'est bien livré à ce moment-là. Et là, je pense qu'il y avait quelque chose assez fort qui s'est produit.
L'étincelle.
Et justement, vos sorties, c'était quoi? C'était des sorties en boîte, c'était au bar, c'était culturel,
c'était... On a poncé ça.
C'était extrêmement classique, c'est-à-dire qu'au début, on sentait beaucoup en bar, dans les bars de la Crute. Et c'était des soirées qui terminaient 3h, 4h du mat. Et puis, au fur et à mesure, c'était dans les clubs, donc la culture, qu'on a fait, refait.
On l'a limite peint. On a changé le lino à la culture.
Et ça a été super rapide. Au début, c'était une fois toutes les 2-3 semaines. Et puis après, c'était toutes les semaines, le vendredi, le samedi, des fois en pleine semaine. Et on a eu, je pense, 2-3 mois comme ça de pleine décadence.
À un moment, c'était cool, trop. Limite, c'était trop. Parce que notre porte-monnaie, on avait installé une application pour calculer un peu tes dépenses et c'était relié à ta banque et du coup ils pouvaient tout de suite faire des catégories en mode t'as dépensé tant en alimentaire et tout. Et il y a un moment où en boisson, en bar et tout ça, là c'était...
On faisait des débriefs des fois post-soirée, en fait on sortait les tickets de caisse un à un comme ça notre portefeuille.
J'en ai encore des friches.
Non, c'était pas possible. Mais c'était très cool.
quand là, vous voyez moins du coup par la force des choses, toi à Prague, toi qui bosses beaucoup, vous gardiez quand même beaucoup de contacts par message, ou c'est vraiment une relation de bah on se voit quand on se voit et c'est trop cool, mais par contre les messages pas trop.
C'est un peu entre les deux.
Ouais, exactement. Ouais. Un peu entre les deux, ou par message on s'envoyait beaucoup de mèmes, on s'envoie des
en fait, ouais, c'est beaucoup ça. De
et pas forcément des comment ça va, et puis après on se voyait quand on avait le temps, ou finalement c'est ouais. assez rarement.
En fait, on s'envoie plus des conneries par message. On s'envoie des vocaux où je fais semblant de rire et ça l'énerve. Ah ouais. Oui, on s'envoie plus des bêtises, ou alors on se raconte juste des petites anecdotes, mais on se parle beaucoup plus en vrai que par message. On s'appelle presque jamais. Moi, j'aime pas trop le téléphone, hein, c'est pour ça. Genre, les SMS, surtout les appels, ça me saoule. SMS encore, ça va. Enfin, c'est sur Messenger, en gros, on s'envoie des photos de chiens, et puis principalement.
C'est déjà bien.
Mais je pense que c'est aussi quand tu t'es installé dans ta coloc que ça a pu changer, parce qu'avant, il était en résidence universitaire. Et du coup, tu pouvais pas inviter des gens chez toi. Et en fait, à partir du moment où on a tous les deux eu nos appartements où on pouvait mutuellement s'inviter, je pense que ça a aussi changé parce qu'on pouvait se voir beaucoup plus facilement en dehors des cours et tout.
C'est vrai que ça a beaucoup changé avant. C'est vrai que j'avais pas du tout l'espace pour inviter des gens. T'as couvert dans une colocation de 100 mètres carrés dans un immeuble super cool. Et donc là, c'était génial pour faire des petites soirées, inviter des gens, juste les inviter à dormir.
Ouais.
Et ce qui était encore plus cool, c'est que là, en début d'année, du coup, Célia cherchait une colocation. Et ça a été un peu conflictuel, un peu long quand même.
Ouais, c'était long.
Parce que tu étais chez lui pendant
J'ai squatté chez lui de plus même. Hein. Septembre jusqu'à... j'ai emménagé ici mi-novembre. Donc deux mois et demi.
Ouais. Et tu dis que c'était conflictuel parce que c'était pas les mêmes manières de vivre.
Pour trouver une collègue.
Dans sa chambre d'appartement, justement, Célia avait un plan, ça s'est pas fait, il y en avait d'autres après. Et puis entre nous ça se passait super bien, c'était une très bonne colocataire.
Ouais, c'était trop bien, c'était une coloc express de 2 mois, mais c'était trop cool. Et en fait, c'est surtout le truc qui est cool, c'est qu'avec Instagram, parfois je fais des stories mais que je garde pour moi.
Ou alors oui, parce qu'on l'a pas dit, mais Célia a un compte Instagram, Quel Déchet il s'appelle, et donc elle publie beaucoup sur ce qui est zéro déchet, environnement, et puis maintenant sur d'autres aspects aussi, qui est plus psycho, tout ça.
Mais du coup, je faisais plus des stories pour mon compte perso où je mets beaucoup plus de bêtises dessus. Et parfois, je faisais juste des stories en fait que je publiais pas, mais tu vois, juste que j'enregistrais. Et je revois certains trucs qu'on faisait ensemble où justement, par exemple, tu m'envoyais l'eau sale avec la serpillière sur la gueule. Et tu vois, quand je les revois, je me dis, ah, c'était cool ces 2 mois et demi quand même.
Non,
c'était très bien. C'était très très chouette.
Et le terme meilleur ami pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que vous l'utilisez ou pas?
Moi, j'ai 10 milliards de meilleurs potes. Moi, j'ai 10 milliards. En fait, enfin, j'en ai pas 10 milliards. En fait, je pense que j'ai vraiment beaucoup d'amis déjà. Je suis assez chanceuse parce que quand je vois tous les gens qui m'entourent à Strasbourg, plus en Île-de-France, je pense que vraiment, si je dois tous les réunir, il y a peut-être 40, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est quand même beaucoup. Mais par contre, je considère que à Strasbourg et à Paris, j'ai vraiment des gens qui sont plus que des amis pour moi et qui sont vraiment. Mais il y en a pas. J'ai pas un meilleur ami ou une meilleure amie, j'en ai plusieurs. Hugo en fait partie. Du coup, je dis que c'est mon meilleur... En fait, j'ai un peu genre mes meilleurs amis de Paris et mes meilleurs amis de Strasbourg. Et Hugo fait partie de mes meilleurs amis de Strasbourg, quoi.
Ouais, je suis un peu dans la même vibe, d'ailleurs, où j'aime absolument pas hiérarchiser, justement, les relations que j'ai. Puis je trouve que ça a pas d'intérêt, parce que finalement, dès que t'as des relations assez fortes avec des gens, pourquoi faire genre un top 3 des gens qui t'apportent le plus? Enfin, genre, pourquoi quantifier toujours? Et c'est pour ça, genre, pareil, j'ai des amis, j'ai très peu de très très bons amis, et Célia en fait partie. Et c'est finalement tout ce qui compte, quoi. Voilà, moi je la décris toujours comme une très bonne pote à moi, c'est vraiment l'expression que j'ai,
c'est vrai que tu dis ça.
Ouais. Et qu'on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant, et qu'on fait plein de choses ensemble, et pas seulement que des soirées, c'est aussi qui est cool.
Mais surtout, je trouve qu'on a énormément évolué.
Ouais.
J'aimerais trop qu'il y ait eu une caméra qui se planquait et qui pouvait nous filmer dans nos premiers instants. On n'était tellement pas aussi libérés que maintenant. Enfin, avant, c'était ultra...
Dans vos sujets de discussion?
Ouais, dans les sujets de discussion et même dans nos attitudes. Je pense qu'en fait, on s'est connus à un moment de nos vies où tous les deux, on était encore beaucoup limités. Mais qu'on se limitait nous-mêmes, tu vois, tant dans notre manière de nous habiller, de nous comporter, de sortir, de parler et tout. En même temps, on s'est genre trop lâchés. Et du coup, je pense qu'on doit être très différents des versions qu'on était quand on s'est connus.
Ouais, totalement.
C'est aussi ce que tu prônes un peu sur ton compte Instagram, de se libérer de...
Ouais. Et pour moi, ça passe de ouf par les amis, en fait. Si t'as des amis bienveillants qui seront toujours... même s'ils sont pas d'accord avec ce que tu fais ou avec ce que tu penses ou quoi... qui vont jamais être jugeants et qui vont essayer de t'aider à t'émanciper au plus possible, tu vois, pour que tu ressembles à ce que t'as envie d'être, tu vois. Et que ce soit par exemple dans le style vestimentaire. Moi, je trouve que ça se voit aussi beaucoup dans notre style vestimentaire ou dans notre manière de sortir, où on se permet des choses où il y a quelques années, on l'aurait pas fait et tout, genre... des petites fantaisies, des petits styles vestimentaires qui changent un peu, du maquillage, des trucs comme ça. Ça, c'est un des trucs qu'on n'aurait jamais fait avant au début.
Puis moi, ce que j'adore justement dans notre relation d'amitié qu'on a, c'est qu'il y a cette évolution qui, je trouve, est vachement bénéfique, enfin, de voir comment on a grandi là en l'espace de quelques années, de ce qu'on est maintenant et comment on est satisfait de nous-mêmes, mais de se dire aussi que l'autre a été là dans l'écoute, ultra bienveillant à chaque fois, et que des fois, il y avait des sortes de prise de risque en quelque sorte, genre vestimentaire ou au niveau des idées que
c'est quoi les prises de risque vestimentaire?
Je sais pas, peut-être que pour ma part c'était de porter de temps en temps du maquillage ou de porter un peu moins de chemise parce que je portais tout le temps des chemises
boutonnées jusqu'en haut.
Oh mon dieu, et
très daron du coup.
Quelle horreur. Ouais, malheureusement, putain, quand j'y repense.
Mais de ouf, t'avais tout le temps les chemises quadrillées un peu marronasses.
Ouais. Bordeaux et tout, mon dieu, là.
Ah ouais, grave.
Non, il y a peut-être de ça. Le fait de danser aussi, un truc tout bête. Où, moi, Célia, j'ai connu, elle adorait danser, elle dansait super bien. Moi, c'était mes premiers pas en club et donc j'étais un peu hésitant, forcément. Et juste de là, de se dire, bah vas-y, tu peux te lâcher, il y a quelqu'un qui est là et qui te complimente et sans, qui te fait pas forcément de faux compliments. Enfin, et ça, c'est super fort. Ouais. C'est super fort parce qu'il y a vraiment cette idée un peu d'accompagnement qui est très bénéfique, je trouve, dans le développement de chacun.
Mais est-ce que c'est aussi le fait de se décomplexer entre amis qui t'aide à se décomplexer sur les réseaux, ou c'est l'inverse, c'est justement de montrer des trucs sur les réseaux qui font que ça aide aussi?
Non, je pense que les réseaux, ils sont nourris par ma vraie vie et pas... Parce qu'en plus, surtout sur les réseaux, au final, tu montres... Enfin, même si t'essayes de prôner un truc un peu naturel et tout, tu fais quand même beaucoup le filtre sur plein de choses, quoi. Du coup, non, moi, je pense que sur les réseaux, c'est vraiment une part infime de ma vie et que j'ai envie de montrer. Et dans la vraie... Enfin, parce qu'il y a aussi des trucs où je me dis, je ne peux pas, si je dois servir d'exemple sur certains trucs, je ne peux pas te montrer, c'est pas possible. Mais non, je pense que c'est vraiment, moi, ce qui, pour moi, ma plus grande force, mais depuis plusieurs années, c'est vraiment l'amitié. Enfin, je me rends compte que plus que justement la famille, par exemple, il y a vraiment un truc où on est vraiment une bande. Et je sais très bien qu'on peut tous compter sur les uns et les autres de manière différente parce que chacun apporte un soutien qui est complémentaire un peu, tu vois. Et du coup, non, je pense que moi, c'est surtout être avec des gens où tu sens qu'ils sont toujours derrière toi et qu'ils vont jamais te juger... Alors, en fait, parfois, ils sont pas d'accord, tu vois. Et justement, c'est cool aussi qu'on puisse en parler, mais tu sens qu'il n'y a pas de malveillance derrière ça, en fait. C'est jamais gratuit, c'est jamais méchant, c'est toujours... en fait, c'est toujours constructif, et parfois, ça te balance des vérités qui peuvent faire un peu mal à certains moments. Mais tu sais que la personne, elle t'aime assez pour te balancer des trucs comme ça, justement.
Et justement, c'est quoi vos points de désaccord?
Ben, j'y ai repensé des fois et je me dis qu'on n'en a pas eu tant que ça. Je trouve que dans les idées, on est généralement assez progressiste, assez dans l'ouverture par rapport aux autres.
On se ressemble beaucoup, mais limite, parfois, je trouve qu'on se ressemble un peu trop. Enfin, il y avait des gens qui en parlaient, je voyais des photos de nous parfois. Là, ça se voit pas trop parce qu'on a, on a changé de coupe de cheveux.
Mais on avait la même coupe.
Mais on a, en fait, pendant un moment, on avait la même coupe de cheveux. On s'habillait un peu toujours pareil aussi, genre en mode avec les gros sweats verts, avec les jeans. On avait une espèce de coupe au bol tous les deux pendant un moment. Les Doc Martens, c'est tout. Et genre, vraiment, on aurait dit des... Enfin, et Yasmine, elle nous appelle tout le temps comme ça, justement. On a dit tout le temps qu'on dirait des frères et sœurs, quoi. On dirait vraiment des jumeaux. Et puis, en plus, surtout que notre différence d'âge se voit pas du tout de l'extérieur. Et donc, on pourrait croire vraiment des jumeaux de temps en temps. Et moi, j'aimais bien jouer un peu avec ça, parfois, aussi. Je veux dire, genre, en mode, les gens, ils savent pas trop. Et tout.
C'est marrant.
Et qui sont-ils?
Point de désaccord, non. Enfin, il me semble qu'on n'a jamais eu de grosses engueulades. Il y a peut-être eu des petits points de conflit dans des débats, mais j'arrive même pas à m'en souvenir.
Même pas, hein, je crois pas.
Si marquant.
Mais je réfléchissais justement tout à l'heure, et je crois que la seule fois où il y a eu un accrochage qui a duré à peu près 30 secondes, c'est quand on n'a pas réussi à choper les places pour Mézig, et qu'au téléphone t'étais un peu vénère, mais c'était juste parce que t'étais fatiguée.
Ah, oui,
pour moi, c'est le seul truc que j'ai vu.
C'est l'électro.
Ouais.
Et en gros, les places elles partaient super vite, et moi j'ai pas mis l'alarme pour prendre les places à temps. Et en plus, il croyait du coup qu'il avait eu des places. En fait, vous avez pas eu les places
non plus. Non, pas du tout.
Et au téléphone, il avait été un peu en mode « Oh non, mais merde, t'as pas mis le réveil et tout, je sais pas quoi. » Et genre après, on a raccroché. Et 10 secondes plus tard, il m'a envoyé un message en mode « Oh pardon, je crois que j'ai parlé un peu méchamment. » Et tout. C'était terminé. Et pour moi, vraiment, quand je réfléchissais tout à l'heure, je me suis dit, je crois que c'est la seule fois où il y a eu un... Ça, c'était vraiment ridicule. Quoi.
Ouais,
ça a duré 30 secondes. Après,
oui,
j'étais en train de couper mes carottes. Je me disais, bon, la vie continue. Mais
je crois pas.
Hein.
Non, des très légères tensions, mais on a réussi assez vite genre, à parler de la situation et ça allait. Quoi. Ça allait. Moi, je sais que, enfin, il y a toujours un truc où je suis... J'aime pas du tout, c'est quand on me coupe la parole, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Et genre, ça me dérange pas de le dire à Célia qui, des fois, le fait. Mais c'est pas grave, enfin, on s'en veut pas après, il y a aucun souci par rapport à ça en tout cas.
Oui, mais c'est parce que vous connaissez aussi et que oui. vous permettez de vous dire les choses assez facilement.
Mais c'est surtout qu'après, tu peux tourner les choses. Enfin, je sais que je coupe beaucoup la parole parce que je parle beaucoup. Et mes copines Yacine et Claire, elles ont appelé ça le Célio speaking. Où, en gros, c'est un peu comme le mind training, tu vois. C'est le Célio speaking, c'est quand Célia, elle prend toute la place dans une conversation. Et qu'elle coupe la parole, et du coup, quand je le fais, je m'en rends pas compte. Et elles me disent attention, c'est le speaking, et là je fais genre et j'arrête et je fais ah, ok, rien et tout. Et c'est trop cool de dire que t'as des potes qui peuvent réussir à bah, faire en sorte que eux ils se sentent bien et pas de genre laisser de côté sur la conversation parce que t'as pris toute la place. Et en même temps, moi je prends avec aucune susceptibilité où je fais genre ah, et puis ça me fait rire en fait. Le terme me fait rire en soi,
ouais, c'est marrant. Et vos passions en commun, c'est lesquelles? Parce que du coup, t'as dit que t'as commencé à aller en club un peu avec Célia. Est-ce que l'électro, t'aimais déjà ça avant de rencontrer Célia, ou c'est elle qui t'a fait découvrir?
Pas du tout. Genre, j'avais écouté quelques titres vraiment de très très loin, et c'est vraiment l'époque où ça m'a totalement pris. Et c'est un ami en commun qui baignait déjà un peu là-dedans, qui mixait, qui nous a fait bien découvrir ça. Enfin, je pense que tu connaissais déjà.
Moi, je connaissais déjà depuis un an ou deux au moins, mais je suis vraiment tombée dedans à Strasbourg, je pense.
Et il y avait de ça, et on est arrivé en plein dedans, et puis après, on a continué plein de sorties sur des clubs à Strasbourg, à Prague. Donc, il y a quand même le haut niveau musical qui nous a quand même pas mal rapprochés. Après, au niveau littérature, moi, ce qui m'a fait grave plaisir, c'est qu'on avait quand même pas mal de références en commun et d'idées, en tout cas, qui nous parlaient. Et donc, on s'est souvent prêté des bouquins. Là, je crois que je t'ai prêté trois bouquins. Enfin, mais je laisse le temps. Enfin, il n'y a pas de souci. Hein. Et moi, je sais que j'aime bien aussi construire des relations là-dessus. Quoi. Enfin, je trouve que les livres, ils forment énormément. Et de se dire que, voilà, on a des livres en commun qu'on aime énormément, ça rapproche beaucoup.
Même des livres de philosophie où du coup ça nous parle, certains courants nous parlent un peu plus que d'autres, ou même des cours de psycho aussi. Il y a beaucoup de cours de psycho. On parle beaucoup de psychologie, mais de manière un peu indirecte, tu vois. Mais quand on parle de nos relations avec certaines personnes, ou quand on parle de relations entre d'autres personnes, on a tendance, forcément, après avoir fait 3 ans d'études, on a tendance à toujours parler un peu des trucs qu'on a vus en psycho et tout, machin. Mais la littérature, ouais, c'est quand même un truc qui est ultra important. Et justement, le premier cadeau que tu m'as fait, c'était un livre. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai trouvé que la relation, elle était devenue plus forte que juste une relation d'université, tu vois, de collègues d'université. Parce que Hugo avait une blague par rapport à moi, il disait que j'étais constante dans la médiocrité.
Ah, c'est vraiment second degré.
C'est une phrase de prof.
Ouais. Mais parce que en fait, limite, j'en joue un petit peu aussi de ce truc. Bah, j'ai beaucoup redoublé, je suis toujours un peu dans la galère, je suis ultra freestyle, je suis tout le temps en cacahuète partout et tout. Et du coup, c'était un peu le dur de dire, ouais, elle est constante dans la médiocrité. Et il m'a offert le livre L'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Et moi, au début, je l'avais juste pris comme une vanne et je m'étais dit, genre, enfin, limite, je vais jamais le lire, c'était du théâtre et tout, j'avais grave la flemme. Et je l'ai lu un an plus tard et ça a été genre la révélation de ma vie où je pense que c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu au final. Et depuis, je suis devenue super fan de Wilde et j'en ai lu d'autres et tout, donc trop bien. En vrai, tu m'as fait.
Et toi, tu lui as offert et tu connaissais déjà ou c'était juste le titre. Enfin, tu connaissais déjà Oscar Wilde et ce livre-là en particulier.
C'est un de mes auteurs favoris. Et puis justement, j'avais beaucoup aimé la pièce. Et puis même l'attitude de Wilde qui est très distanciée, enfin très, très bourgeois, un peu cynique aussi sur les bords. Et puis là, je me suis dit, oh, bah, ça pourrait carrément lui plaire. Je me suis dit, il y avait la blague aussi qui était en fond, ça pouvait marcher. Et ça m'a fait grave plaisir quand elle m'a dit un an après, ouais, vas-y, je l'ai lu, je l'adore.
Ah ouais, je l'ai prêté à tout le monde après, ça a été la révélation. C'est le jour et la nuit. Ce qui nous a réunis, c'est la techno et la littérature.
Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est une amitié assez complète dans le sens où finalement, sur plein de pans différents, on arrive à s'entendre, même au niveau de la cuisine, enfin, du genre.
Grave, ouais.
Quand je t'invite à manger ou bien quand on va manger à l'extérieur, enfin on s'entend toujours bien, il y a toujours ce truc de... Finalement on arrive toujours à trouver des compromis qui sont grave cool.
Quoi. Et c'était cool quand on habitait ensemble et qu'on cuisinait, quand on faisait les courses et tout ensemble et qu'on testait des épices, des mélanges et tout, bon, souvent pour faire des faux quand même, ou du couscous.
Pour faire des quoi t'as dit?
Du couscous, enfin en gros genre on mangeait beaucoup de semoule, parce que c'est assez rapide à faire vu que t'as juste à faire chauffer l'eau et tu mets. Et je sais pas pourquoi Hugo il appelle ça de la mousse.
La mousse.
On mange que ça.
Et parce que vous avez, parce que du coup je sais que Célia est végétarienne parce qu'elle en parle sur les réseaux, mais vous avez le même régime alimentaire et ou pas
Non, pas du tout. Moi, je suis assez flexitarien.
Et ça a jamais été difficile
En fait, on mange pas beaucoup.
Justement, inviter Célia à manger ou...
Non, jamais, au contraire. Et je pense que tu m'as pas mal poussé, mais assez indirectement, à me pousser à faire justement des recettes un peu plus végé, voire vegan. Enfin, genre, tous les petites boutiques sur Strasbourg, tous les petits restaurants où manger, des petites idées d'associations d'aliments. Enfin, moi, je sais que c'est avec nos discussions, avec ton compte, genre que je peux développer un peu ma cuisine. C'est quand même grave cool parce que Célia baigne là-dedans depuis quand même pas mal de temps, mais elle l'a jamais imposé, j'ai l'impression, dans son sac d'amis. Et il y a un truc où on se voit chacun évoluer sur le côté environnemental. Et...
Ouais.
Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que je parle assez peu en fait, d'Instagram et de tout ça avec les gens qui me connaissent dans la vraie vie. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont bloqué de leur story sur Insta. Toi,
moi compris.
Parce que justement, comme je parle quand même, enfin comme je montre quand même beaucoup de ma vie, ils préfèrent pas être au courant et qu'on se raconte les choses en vrai plutôt que de les apprendre.
C'est
et
cool,
tout,
c'est vachement bien comme idée.
Ouais, ouais. Mais moi, limite, ça m'arrange. Hein. Moi, limite, parfois, je bloque moi-même des gens.
Ouais.
Et généralement, ce que je bloque, c'est les gens que je connais très bien parce que, enfin, même, je crois que ma petite sœur continue de regarder les stories alors que pourtant, elle aussi, elle préfère qu'on se voit en vrai, mais pratiquement tous mes potes de Paris, ils regardent jamais parce qu'ils disent, sinon on apprend des trucs avant qu'on te voit et du coup on préfère pas. Et il y a aussi pas mal de mes potes qui suivent pas forcément ce que je fais. Et j'avoue que ça me dérange pas parce que comme ça on en parle en vrai, c'est mieux et tout. Ou on n'en parle pas d'ailleurs, c'est ceux qui ont envie d'en parler.
Et du coup, est-ce qu'il y a un moment, parce que t'as dit que quand il t'avait offert le livre d'Oscar Wilde, c'était vraiment un moment où pour toi tu t'es dit, ah ouais, l'amitié va durer et c'est pas juste une amitié de fac. Est-ce que toi t'as aussi eu un moment comme ça avec Célia?
Moi je me souviens d'un moment, je sais pas si tu t'en souviens toi, mais qui m'avait beaucoup marqué. On revenait d'une petite soirée en bar avec des potes et j'ai raccompagné chez elle. Et sur le chemin, on parlait un peu c'est pas super fun comme sujet, mais d'angoisse existentielle. Toutes les petites angoisses qu'on peut ressentir par rapport à notre place dans le monde, par rapport au fait qu'on n'arrive pas forcément à trouver de sens dans la vie, par rapport au fait que même si on veut en trouver, il n'y a pas forcément de réponses qui sont toutes données, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont malgré tout des illusions, et finalement, comment on fait pour vivre avec ça. Et le truc, c'est qu'on en a parlé sur le chemin. Et puis devant chez elle, on a continué à en parler pendant 20-30 minutes, mais de manière totalement décomplexée et assez libre. Et c'était la première fois que j'avais une discussion vraiment à cœur ouvert sur le sujet. Et je voyais qu'en tout cas chez Célia, ça répondait quand même assez pas mal, dans le bon sens. Et même s'il y a, on n'a pas trouvé de réponse ou de solution derrière, mais juste de se dire, il y a aussi une autre personne dans le monde qui peut ressentir ça. Du coup, je me sens moins seul. Et ça m'a fait beaucoup de bien sur le moment. Et puis je me dis, ouais, il y a quand même quelque chose en tout cas.
Mais je crois qu'on s'est beaucoup aidé sur ça parce que moi, quand je suis arrivée à Strasbourg, c'était une période où j'avais plein de questions. J'avais une grosse angoisse sur la mort et tout, et sur des trucs comme ça. Et c'est des sujets qui sont vachement lourds et que tu peux pas forcément aborder super facilement. Et au moment où j'ai rencontré Hugo, en fait, le truc, c'est que Hugo, il m'a initiée à un humour particulier, un humour très nihiliste et très, très noir, tu vois, avec beaucoup de... Il y avait... Maintenant, ça n'existe plus trop, en vrai. Les groupes Facebook de mèmes et tout, ou alors je les vois
même,
plus.
Ouais.
Moi, c'était vraiment une période où je me posais beaucoup de questions et j'étais surtout très peureuse. J'avais ultra peur de la mort et du coup, je me posais plein de questions par rapport à ça. Et donc, on a aussi beaucoup parlé d'existentialisme, de tout ce courant philosophique et tout, un petit peu là-dedans. Faire tout le temps un peu des blagues sur Nietzsche, sur Sartre et tout ça. Et moi, en fait, le fait de trouver quelqu'un avec qui, au début, tu peux en parler et te livrer là-dessus en te disant, voilà, moi j'ai peur de ça, il y a ça qui me fait peur, il y a ça qui me pose des questions. Et après, de pouvoir en parler ultra, de manière récurrente, mais très drôle, en fait, et très décomplexée, moi, ça m'a aidé à être tellement moins peureuse et je crois que ça a vraiment beaucoup changé ma vie. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu un truc où on fait souvent des blagues très sombres comme ça.
On rigole tout le temps.
Ou même par exemple, on a un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on cherche quelque chose, c'est à chaque fois on finit toujours genre qu'est-ce que tu cherches et tu fais genre ma dignité ou mon envie de vivre.
Ma joie de vivre.
Ouais, je cherche ma joie de vivre, elle est partie.
La sens de ma vie, genre. Ouais, c'est ça.
Ah bah merde, on l'a encore perdu. Et on fait que des trucs comme ça et en fait, nous, ça nous fait tout le temps ultra rire. Et moi, au-delà du fait que ça me fait rire, c'est que ça m'a vraiment aidée à être ultra sereine au quotidien. C'est chose que j'étais pas du tout avant qu'on se rencontre, justement. Et c'est souvent un truc qu'on dit de nous, justement. Je pense de l'extérieur, c'est un peu... Mais c'est les deux qui font des blagues et après qui font genre tu ris un peu jaune en mode le sens de la vie. Et ouais, moi, ça m'a trop aidée. Et puis ouais, de parler aussi beaucoup de se prêter des livres, justement, d'existentialisme et tout, moi, ça m'a... J'ai moins l'impression de porter ça toute seule aussi. T'as moins la sensation que t'es compressé par toutes ces angoisses et ces questions sans réponse. Et là, tu te dis, tu les partages, tu trouves toujours pas de réponse. Mais au moins, tu sais que t'es pas la seule à chercher. Je trouve que tous les deux, on a un aspect vachement pragmatique de ce genre de situation qui, moi, m'aide énormément. Enfin, je sais que je suis... comme je suis énormément dans l'émotion, j'ai besoin, pour contrebalancer, de quelqu'un qui est beaucoup plus dans la logique et qui va plus dire, genre... Enfin, tu sais, limite, tu vas lui dire que, ouais, il y a quelqu'un qui est malade, et il va dire, ok, est-ce que t'as pensé à appeler la MDPH? Enfin, tu sais, c'est vraiment... D'un coup, ça te sort un petit peu de ce truc où tu t'investis trop émotionnellement, et au final, bon, c'est important, tu vois, mais... Après, tu te perds un peu là-dedans parce que tu n'arrives plus à voir un peu clair. Et moi, je sais que si j'ai des soucis de cet ordre-là, je vais tout le temps voir Hugo où on va boire une bière ensemble. Et lui, il va être pas du tout dans l'esprit un peu dramatique, pathétique, à faire « Oh là là, c'est horrible et tout, ma pauvre et
j'ai
tout. »
Un peu plus dans le concret, du coup.
Ouais, puis moi, j'ai beaucoup de mal à rassurer les gens. Et plutôt que de le faire mal, je préfère en tout cas proposer des alternatives un peu plus...
Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que si déjà toi, t'es déjà dans l'hyper-émotivité et que t'as la personne en face qui se met à être dans le même état, bah là, tu tombes dans une spirale où ton chien est assez... C'est terminé.
Sans les mouchoirs,
on pleure, on dilue la bière, rien de pas. T'as été une des premières personnes à Strasbourg à qui j'ai parlé de choses plus que je gardais un peu secrètes et des trucs comme ça, et que je lui avais dit, et j'avais trouvé qu'il avait eu la meilleure réaction du monde, où il était resté grave de marbre et limite il avait fait bon à manger, genre, et j'avais trouvé ça trop bien parce que je me suis dit ça, le fait que les personnes fassent pas comment dire, une affaire d'état de tes préoccupations personnelles, ça te décentre un petit peu aussi, et ça te fait prendre de la distance, et tu dis « Oh ouais, bah écoute, on va manger, tu vois, genre, au final, ça va. »
Là, tu parlais un peu de difficultés qu'il y avait pu avoir avec l'extérieur. C'est vraiment la manière d'agir de vous deux, de rester dans le concret, ou du coup, toi, t'es comme ça, mais Célia, tu vas justement...
Moi, je suis un peu plus mesurée. Je pense que je suis quand même un peu plus dans l'émotion. Si Hugo, il me parle de trucs qui se passent dans sa vie et de ses problèmes ou des trucs comme ça... Je pense que je suis aussi un peu pragmatique où je vais
tu
lui
l'es
dire.
Totalement.
Ouais, je le suis.
Il y a certains moments où ouais, tu l'es totalement.
Ouais, non, en vrai, je le suis même avec toi.
Ouais, hier soir, par exemple, ouais, je me souviens, tu peux l'être aussi totalement. Mais il y a ceux qu'on a réussi, je trouve, à trouver un ton de discours qui est à la fois rassurant, qui propose peut-être des alternatives assez concrètes, sans mettre aussi énormément d'espoir, parce qu'il y a des fois où ouais, t'es grave dans la merde et. Ça sert à rien d'être en face d'une personne qui va te proposer plein de solutions. Enfin, des fois, il faut juste de l'écoute. Et c'est ce qu'en tout cas, toi, tu peux apporter d'assez bien. Et c'est des fois tout ce qu'il faut, quoi. Et d'avoir quelqu'un en face qui a une très bonne écoute, je trouve ça super important. Et en tout cas, t'es l'une des rares personnes dans ton âge qui peut vraiment apporter ça à bonne dose, quoi.
En fait, ce qui est intéressant quand tu parles de tes soucis à un ami, c'est que toi, tu vois toute la situation avec ton prisme à toi, avec toutes tes variables et tes trucs. Et quand t'en parles avec quelqu'un d'autre, il est dans une autre position, dans un autre angle de vue, et du coup, il peut t'apporter peut-être un peu plus de souplesse sur certains trucs. Il peut t'apporter aussi son expérience, même s'il a pas forcément vécu la même situation. Il peut te dire, bah, moi, j'ai vécu un peu ça, ça peut ressembler. Du coup, il y a peut-être ça que tu peux faire et tout, machin. Et je pense que c'est plus... Enfin, moi, personnellement, je cherche plus ce genre de réponse quand je parle de ce qui va pas dans ma vie que juste un câlin. Ou des... même, ouais, par exemple, ça, on s'est jamais fait un câlin quand...
Quelques fois, je crois.
Ouais, à une certaine heure, quoi.
Avec certains grammes aussi.
Possiblement.
C'est vrai, je suis pas ultra tactile de base.
Non, puis il y a aussi un truc super cool quand on parle. Et surtout, mon problème, c'est que... je trouve pas que tu vas te positionner en tant qu'ami qui veut absolument te protéger et qui va trouver que les choses qui t'oppressent ou en tout cas qui causent les problèmes sont forcément les mauvaises choses dans l'histoire. Sans dire de faire l'avocat du diable, mais il y a toujours cette prise de distance un peu en mode bah voilà, il y a mon ami qui a des problèmes et qui va en parler, mais il a peut-être pas aussi la bonne façon de réagir et c'est peut-être aussi ça qu'il faut mettre en cause. Et ça, c'est super bien justement pour réussir des situations problématiques parce qu'il y a des fois où on fait garder la merde et les amis ils sont, ils sont aussi là pour le dire quoi. Et tu le dis.
En fait, on se fait beaucoup de compliments plus que. Plus que se faire des déclarations, on se fait des compliments sur, par exemple, quand on a trouvé justement que l'un de nous était pertinent dans une conversation, qu'il a été de bons conseils et tout, ça tu le dis facilement, tu vois. Quand t'as trouvé qu'une discussion était intéressante ou que j'ai bien parlé, tu vas envoyer plusieurs messages pour dire « Ah, j'ai trouvé que c'était trop bien cette conversation, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien ». En fait, on se dit pas directement en mode « Je t'aime, t'es mon meilleur pote », mais c'est plus... En fait, c'est plus de l'affection un peu quotidienne, quoi, je trouve, quand même. Alors, et déjà, rien que dans les surnoms, justement. De... Ouais, parfois, il m'appelle vieille pute, mais...
C'est le plus affectueux que j'ai trouvé.
Je peux pas mieux faire, hein. Je suis désolée, mais...
C'est chat ou vieille pute, ça dépend de ça que j'ambiance. Non, mais ouais, je pense que c'est pas vraiment des... Je pense que c'est pas vraiment des déclarations pures et dures, mais je trouve que c'est quand même assez régulier d'avoir... la sensation. J'ai pas l'impression que c'est parce qu'on est pudique ou parce qu'il y a de la gêne, c'est juste que.
Non.
Il y a des moments où tu sens pas forcément l'envie de le faire, mais moi je suis un peu comme ça avec tout le monde, je suis pas très dans les grandes déclarations et dans les grandes tirades pour dire à quel point une personne est incroyable. Ça va être plus un moment où ça me fait penser à la personne, où je vais me dire qu'elle me manque, et du coup là à ce moment-là je le dis, mais on ne sait pas non plus en mode de je t'aime mon bibou.
Oui,
voilà.
Façon défaut, ça vous ressemble pas.
Non. Pas trop.
Mais on préfère plus les gestes et les actes que ça, quoi.
Et ouais, et on s'y retrouve bien, je pense, en plus.
Et je pense que c'est aussi une question d'atmosphère, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où, quand je suis avec lui, ça peut être juste un regard ou genre même juste tu vois, une ambiance ou des paroles qui font que tu sens que t'es apprécié, que tu sens que t'es considéré, sans que ce soit obligé d'être explicite, genre je t'apprécie, je te considère. c'est plus insidieux que ça, quoi.
Ouais.
On a tellement d'expressions, enfin, on a t'as un vocabulaire à nous, une façon de parler où il y a tout le temps des « Oh non !» Tu vois, c'est devenu ultra... Enfin, c'est devenu super naturel, et je me rends compte de ce décalage quand je rentre voir mes potes de Paris, et ceux qui connaissent Hugo parce qu'ils l'ont déjà rencontré, ils disent « Putain, c'est... En fait, tu peux plus faire la différence.
Enfin, ouais, que ce soit... » les expressions de
Ouais, c'est ça. Et même après, ça devient des trucs où... après, je le fais pas que quand il est là, je le fais du coup aussi quand il est pas là, et ça peut mener à des situations un peu étranges, genre, il fait tout le temps un bruit quand il voit un chien, il fait tout le temps « Aouh !» quand il voit un chien, et moi, je me suis surprise à maintenant le faire quand je vois des chiens dans la rue, et que je suis toute seule, et je fais « Aouh !» Et moi, je dis « Mais non, mais j'ai l'air d'une folle, en fait, parce que là,
personne ne me soutient !»
Ouais, c'est ça. Alors que quand t'es deux, et après, tu fais « Ah, on rigole, tu vois, alors que quand t'es seule, t'es vraiment, alors... Seul face au maître du chien qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle
fait? Puis même, j'ai remarqué quand on était en bar avec certains de nos potes où on se rend compte qu'on a vraiment des tics de langage assez particuliers et qu'en fait, là, tu te rends compte que les autres n'ont pas été là.
Ouais. Il faut faire attention à ne pas exclure, du coup.
Ouais, ouais. Ça faire gaffe aussi, quand même.
Ouais. Mais après, ça, je l'ai aussi avec ma petite sœur et je l'ai aussi... Enfin, en fait, la plupart des gens avec qui j'ai des liens très forts, je me rends compte que j'ai... Enfin, que je suis limite un peu l'addition de toutes ces relations qui sont importantes pour moi, ce qui fait qu'il faut toujours faire... attention, à pas exclure quand on est avec d'autres gens qu'on connaît un peu moins, pour pas paraître un peu trop dans notre bulle tous les deux et pas exclure des nouvelles rencontres ou des gens qu'on connaît un peu moins que nous deux, quoi. Parce que très vite on peut tomber dans un truc, on commence à parler comme Stéphane Bern pendant une demi-heure et après c'est fini, quoi.
Oui,
toujours comme ça.
Et est-ce qu'il y a une anecdote que vous aimez vous rappeler régulièrement parce qu'elle vous fait marrer?
Je sais pas, c'est le truc où je suis saoule.
Il y a une soirée, c'est du Rafio. On peut la raconter.
Oui.
C'était assez drôle. On avait du coup notre ami Flan qui mixait. C'était une super soirée à terminer les bières de tout le monde. Et on sort de la péniche. Et là, tout à coup, Célia était finie. Voilà.
Ah ouais.
On a dû la porter jusqu'à chez elle. Et puis, vraiment, on rencontre une meuf dans la rue qui était en train de pleurer. On essaie de la rassurer. Là, tout à coup, Célia vomit juste devant la meuf. Et on va rentrer quand même. On la ramène chez elle, on la pose dans le lit et tout. On essaie de la faire boire. On met une
bassine. Boire de l'eau, du coup.
Boire de l'eau, oui, quand même. Faut arrêter le massacre à un moment. Hein,
elle voulait plus boire, la grognasse.
Trop nulle.
Et à un moment, j'avais sorti un balai, puis je l'emmerdais avec le balai. J'ai tapé comme ça, je fais « Célia ». Puis à un moment, je fous un coup de balai dans son étagère qui s'écroule sur elle. Et donc, il y avait l'étagère en morceaux avec tous les livres, et du coup, ce qu'on s'amusait à faire, c'est qu'on a mis les bouts d'étagère et les livres sur Célia, et puis les livres un peu partout dans l'appart, sur les meubles, sur les planches de porte, enfin voilà, et on l'a laissé comme ça. Et le truc aussi, c'est que la bassine qu'on a utilisée pour la mettre à côté d'elle, avant, il y avait du compost dedans. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a vidé le compost dans sa douche, pour que la bassine soit vide.
Et l'horreur, mais vraiment, c'est un scénario.
Le lendemain, Célia s'est réveillée. Et vas-y, du coup.
Mais c'était horrible. En fait, moi, je me suis réveillée sans trop me souvenir de la fin de soirée. Mais j'ai très bien
dormi.
Moi, je dors comme un bébé, moi. J'ai jamais eu la tête qui tourne dans un lit. Ça m'est jamais arrivé. Moi, je m'endors comme une pierre, bam. Et je me suis réveillée. Et je vois des livres partout chez moi. Ouais, sur les poignets, dans mon évier. Je commence à faire... Oui, d'accord. Et pour me rafraîchir les idées, je me dis « Ah, je vais prendre une douche !» Et là, j'arrive et je tire le rideau de la douche et je vois genre tout mon compost dans ma douche. Donc compost, en plus, qui avait quelques semaines dans le ventre. Et vraiment, enfin du coup, en état de décomposition horrible. Et j'étais genre... Tu sais, vraiment, ce moment où tu sais que pour te doucher, tu vas devoir ramasser le compost à la main et le remettre dans ton seau comme ça. Espèce de défaite. Genre, allez hop. C'était horrible. Mais en même temps, voilà. Maintenant, ici, j'ai des bassines où il n'y a pas de compost. Donc si un jour ça arrive...
T'as prévu le coup.
Voilà, on ne sera pas obligé de vider mon compost pour ça. Mais c'est surtout des anecdotes de soirée, on en a plein. Mmh. Mais... En plus, c'est surtout qu'on a commencé... Enfin, on n'a pas beaucoup voyagé, mais du coup, je suis venue deux fois à Prague pour te voir. Mmh. Et toi, t'es venue une fois à Paris pour me voir aussi. C'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Ouais, et on a fait des randonnées, du coup. Et moi, je serais trop chaude de retourner à Prague encore. Mmh. Mais Prague, j'avais, bah, Prague on a vécu pour moi un des trucs qui était les plus fous dans ma vie, où il a rencontré des filles qui faisaient des études de philo à la base, non ?
Philo, ouais, exactement. Philo, ouais. Ouais.
Et en gros, elle avait organisé un événement chez elle où toutes les personnes qu'elle avait rencontrées à Prague, elle les avait conviées à venir dans l'appartement. Et elle avait fait une sorte d'après-midi d'exposition d'art.
C'était
un vernissage.
Ah,
ouais.
Bah, t'en avais parlé sur les réseaux.
Et en gros, on avait fait une... Qu'est-ce qu'on pourrait... Comment on pourrait appeler ça?
Une
tentative.
Une œuvre d'art à votre manière.
Chaque invité devait ramener une œuvre sur le thème du corps. Et le truc, c'est que la semaine d'avant, je m'étais rasé les cheveux. Et je sais pas pourquoi, mais j'avais pas jeté mes cheveux. Je l'ai mis dans un sac comme ça, j'avais pas pensé à jeter le sac. Et le jour du vernissage, on avait encore rien, on était en gueule de bois et tout. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc on a essayé de faire une sorte de tableau avec mes cheveux. On a fait un très bel arbre et tout. Et on l'a ramené.
C'était trop bien quand même.
Et le vernissage était incroyable. Elle avait aménagé tout son appartement. Chacun avait fait une œuvre particulière. Donc ça pouvait être de la photo, ça pouvait être des poèmes, ça pouvait être de la peinture, des dessins.
On a passé tout l'après-midi là-bas avec des gens qui venaient de partout.
Ouais.
Et après, on avait dû présenter notre œuvre en anglais en mode hello. Et après, moi dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là déjà? Et c'était trop bien. Et après, il y avait une fille qui avait fait de l'accordéon et tout. Enfin, c'était trop bien. De toute façon, Prague, j'avais vraiment trouvé ça incroyable. Puis on a fini aussi dans une piscine à Prague, ensemble.
Ah oui, oui.
Ça aussi, je crois que c'était une des meilleures soirées que j'ai faites de ma vie.
Justement, c'était après le vernissage.
Oui,
le vernissage, on est terminé dans une boîte qui était horrible. Et on s'est dit, on va terminer au Cross Club, qui est un club assez connu au nord de la ville. Puis on s'est posé jusqu'à 7h du matin avec des amis. Et puis à un moment, on s'est dit, on va se mettre au parc de l'Etna, qui surplombe la ville, avec quelques bières.
Moi, je me suis endormie.
Et c'était vraiment paradisiaque, il faisait beau, il y avait les oiseaux qui chantaient, il y avait des chiens partout. Et il était 11h, on s'est dit, moi, il faudrait peut-être rentrer quand même. Et s'il y a bien eu un moment très difficile dans notre relation d'amitié, c'était ça. C'était vraiment de rentrer jusqu'à chez nous. C'était une vraie torture.
Mais c'est surtout qu'on est allé au resto et on n'en pouvait plus, genre, on était en train de piquer du nez face à notre assiette, on était genre trop mal et tout comme ça. Et après, bah c'était juste avant le resto, en fait, on a vu une sorte de piscine qui était à moitié remplie et qui était un peu ouverte. Et en fait, on a décidé d'aller dedans. Et j'ai plein de vidéos, de photos. On est là en train de se, tu sais, vraiment marcher comme ça, comme deux âmes en peine. Et vraiment, il y a un chien qui nous a rejoint dans la piscine. Et on était genre, trop bien.
Des petits moments comme ça qui étaient bien cool. Et on s'en souviendra, je pense, assez longtemps.
Ah ouais, c'était trop bien.
Du coup, dans les sujets de discussion, vous avez des sujets tabous ou pas trop, ou pas du tout?
Non, et ça, je trouve ça super cool. Il y a un truc, je trouve en tout cas avec toi, c'est que là où je peux avoir toujours des petites appréhensions en parler avec mes amis, j'en ai jamais avec Célia. Et je sais toujours que c'est très très bien reçu. On avait fait une soirée, les soirées péché public, à l'Elastic Bar. C'était, peut-être que je vais en parler très mal, mais c'est la manière dont moi j'ai senti, c'était des petites soirées à public fermé, qui durent toute la nuit, et en fait ils invitent plein d'artistes pour parler justement du corps, de la sexualité. Il y avait un ami qui nous avait invité là-bas, et donc il y a des performances, il y a de la musique, il y a de la lecture de poèmes, il y a du crochet même, il y a plein de choses différentes. Et bon, c'est une ambiance très particulière, il faut apprécier, et puis j'avais directement proposé à Célia, je suis sûr qu'elle allait apprécier. Et justement, on a abordé...
J'ai eu un peu peur au début, quand même. J'étais plus réticente que toi.
Ouais. Je t'ai fait voler tes clés avant, tu pensais...
J'étais genre... parce que du coup, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de nudité et tout ça, et que ce soit dans la performance ou des gens qui viennent. Et nous, on était venus habillés très sobrement. On était un peu habillés pareil, comme d'hab. Avec le col roulé noir et puis les Doc Martens. Voilà.
Classique.
Mais moi, j'avais un peu plus peur. Mais comme tu y allais, je sais pas, j'ai fait confiance et j'ai pas regretté. C'était trop bien.
Justement, là, on a pu avoir des discussions assez, assez ouvertes. Et puis, il y a une bonne réception, quoi. Et là, c'était encore une preuve de dire, on peut parler de tout, n'importe quoi. Et ça passe. Ça passe vraiment à chaque fois. Ouais, c'est ça qui fait super plaisir, quoi. Il y a toujours des amis, même si on se sent très proche d'eux, on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment peu bloqué. Et c'est pas que ça enlève de la qualité à leur relation d'amitié, mais forcément, ouais, on peut pas forcément parler des choses qu'on voudrait discuter.
Enfin, pour moi, c'est un peu indispensable que je puisse parler de tous les sujets et qu'il n'y ait pas vraiment de tabou sur quoi que ce soit, enfin, que ce soit la sexualité ou justement les questions un peu plus psychologiques ou de mal-être et des trucs comme ça, qui sont pour moi les deux trucs qui peuvent être à peu près tabous, tu vois. Bah, moi, j'ai aucun tabou là-dessus avec personne. On en parle de plus en plus librement, en plus, je trouve. Avant, on en parlait plus de manière un peu conceptuelle, genre surtout de la sexualité. Maintenant, on donne... tous les détails, tu vois, voilà. On fait des comptes rendus,
on fait des thèses, des mémoires.
Non, mais maintenant,
c'est ce qui prend plus de temps, du coup.
En fait, je fais genre, je travaille, mais c'est ça, je raconte mes dernières soirées, mes dernières expériences. On a vraiment aucun tabou, et puis ouais, on parle autant des choses qui peuvent mal se passer que des choses qui peuvent bien se passer, puis on est toujours, soit on donne des conseils, soit on est content, enfin, c'est un peu. Je fais pas attention aux mots que je vais choisir. Enfin, je me dis pas, attends, il faut que je tourne la phrase comme ça. Genre, ça sort comme je le pense. Je fais genre, hop là, je te balance l'info de manière plus ou moins crue. Souvent assez crue quand même. On cherche pas à tourner autour du pot pendant 1000 ans et tout. On dit les trucs assez librement. Et puis, et pareil, on se juge pas non plus sur tous ces sujets-là où chacun, on a nos expériences, on a notre façon d'appréhender la chose. Et puis, on est. Puis, limite, en fait, on est plutôt curieux en fait d'apprendre des choses de l'autre parce que. Parce que comme c'est pas les deux mêmes vies, et ben tu dis ah toi tu fais comme ça, tu fais ça, ouais, c'est trop marrant. Surtout qu'on est assez différents en plus sur ce point-là, donc c'est cool.
Est-ce que quand vous pensez à l'avenir,
demain,
est-ce que déjà ça vous arrive de réfléchir à où est-ce que vous pouvez être dans 5 ans, 10 ans, enfin voilà. Et est-ce que quand vous y pensez, vous avez une certitude ou non peut-être d'être toujours amis, de vous d'être toujours l'un et l'autre dans la vie de l'autre?
Moi je pense jamais à l'avenir. Moi
non plus. J'ai énormément de mal à me projeter dans l'avenir. Genre même dans 2 semaines, je sais vraiment pas. Ça serait super cool. Moi j'aime bien justement pas placer des espoirs d'avenir. Mais en tout cas, si ça se réalise, c'est que du bonus et c'est bon à prendre. Et du moment où on s'est connus, je me suis pas dit on se connaîtra encore dans 4 ans, mais là on se connaît encore et c'est génial.
J'ai pas l'impression que ça fait 4 ans. Enfin, c'est ouf de se dire que ça fait déjà.
C'est passé tellement rapidement.
Ouais, grave, j'ai l'impression que ça a fait bam, et genre direct. Attends, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas ? J'ai fait un gros blackout. mais moi, de toute façon, je me projette pas personnellement. Je sais. Enfin. Et je trouve qu'on a un peu ce truc en commun. Et moi, personnellement, je sais que je suis plus heureuse comme ça, où je projette rien que ce soit dans ma vie perso, que ce soit études, travail, où est-ce que je vais habiter, avec qui et tout machin, mais même aussi dans mes relations amoureuses et amicales, je me projette jamais et je vis toujours un peu les trucs sur l'instant. Et en fait, juste tu t'écoutes, tu communiques beaucoup et puis tu vois où ça te mène. Et je me rends compte que les relations dans lesquelles je place pas, enfin c'est pas que je place pas d'espoir en mode genre c'est voué à l'échec, mais plus tu te dis elles existent maintenant, c'est cool, on en profite. C'est des relations qui durent super longtemps. Et surtout, ce qui est un peu étonnant, c'est que tous les gens qui ont été les plus importants pour moi à Strasbourg dans notre groupe de psycho là, c'est des gens sur qui jamais j'aurais misé quand je les ai rencontrés. Enfin, on était un peu limite connus dans la promotion pour ça, pour dire genre c'est un groupe d'amitié qu'on ne comprend pas de l'extérieur parce qu'on est tellement tous différents, autant dans notre physique, dans notre âge, dans
nos passions.
Hugo et moi, on se ressemble quand même beaucoup. Justement, je pense que c'est ça qui fait. Mais dans le groupe de 5, on était tous très, très, très différents. Et de l'extérieur, on pouvait se dire, mais comment ça se fait qu'il y a eu un moment un crossover comme ça? Genre, il y a un problème, tu vois. En fait, c'est des gens, quand je les ai rencontrés, jamais j'aurais pu croire que ça allait devenir mes amis aussi fort et aussi longtemps. Et je pense que c'est justement parce que j'ai pas mis de pression dans cette relation, que j'ai laissé les choses se faire, que ça c'est devenu cool en fait, et que c'est devenu profond et intéressant. Et je pense que du coup on va continuer.
Parce que si vous vous projetez pas à 2 semaines, est-ce que vous arrivez à avoir des projets ensemble, donc que ce soit des vacances, des week-ends Est-ce que vous en avez actuellement des projets qui ne sont pas encore arrivés
On a l'idée de la randonnée prochainement avec des groupes de potes.
Ouais. Si, on voulait aussi que tu reviennes en Île-de-France
fin août. Pour le festival,
Pour le festival et aussi pour la randonnée, une autre randonnée.
Bah ouais, en fait, c'est plus genre s'inclure mutuellement dans nos... Enfin, ne plus forcément rester dans le cercle qu'on a créé ensemble, mais aussi se partager un peu... Enfin, inclure l'autre dans nos vies, où je le présente à mes potes et il vient chez moi, potentiellement venir à Besançon un jour aussi.
Besançon, c'est vrai qu'il y avait ça aussi.
Enfin, en fait, ouais, pour rencontrer un peu les parents et tout, les trucs comme ça, enfin... Mais sinon, des gros, gros projets à long terme...
Non. Je pense que c'est ça aussi qui est assez cool, c'est que, bon, même si on se projette pas, on a quand même des petits projets, voilà, moyen terme, qui sont quand même assez facilement réalisables. Et puis, ça se
camping aussi, on
en a parlé. C'est génial. Je trouve qu'on avait vraiment trouvé pas mal de satisfaction là-dedans, quoi. On a peut-être pas, voilà, de grosses ambitions, mais...
Et justement, vous avez parlé de... Donc toi, t'as déjà vu les potes de Célia en Ile-de-France. Et du coup, qu'est-ce qu'ils pensent de votre relation? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Moi, en tout cas, de ce que disent mes amis, c'est... en tout cas, ils voient qu'on est proches, qu'on a quand même pas mal de complicité, et qu'on fait souvent toujours rigoler la tablée.
Ouais, mais c'est ça, en fait, je trouve qu'on a un peu ce rôle de duo qui vient faire un peu rire, malgré nous.
L'oreille est hardie, mais en plus pathétique, quoi.
En plus sombre. Voilà. Ouais, mes potes ils disent un peu la même chose, ils l'ont rencontré, bah soit parce que quand mes potes sont venus, mes potes ils sont déjà venus aussi à Strasbourg, ou quand lui il est venu, il y a un peu ce truc de, ouais, ce duo un peu qui arrive et qui fait ah comme ça, et on fait un peu rire les gens, mais après, comme on a aussi beaucoup d'autres amitiés, elle va pas forcément ressortir de ouf par rapport aux autres, même si... En fait, j'ai l'impression que celle qu'on parle le plus, c'est quand même Yasmine, tu vois, c'est quand même Yayou. Bah, Yayou, elle aime beaucoup parler de nous, parce que elle a, bah, déjà, elle nous aime beaucoup, et puis elle a vraiment de l'affection pour ce duo qu'on a créé, où elle est tout le temps en train de dire, on dirait mes enfants, et vous êtes des frères et sœurs, tu vois, tu sais, il y a vraiment ce truc, et quand elle voit qu'on est ensemble le week-end et tout, parce qu'elle voit des photos sur Insta ou parce qu'on lui raconte ou quoi, elle est toujours en mode « Oh, vous êtes trop choux ensemble et tout, ça se voit que vous êtes vraiment super proches et tout ». Limite, c'est plus elle qu'on parle plus que les autres, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Mais oui, je pense qu'on est un peu... on est un peu les rigolos.
Puis moi, un truc que j'aime beaucoup, c'est que du coup, quand j'ai appris à connaître les amis de Célia, je les ai directement kiffés. Et ça me fait trop plaisir dès qu'ils reviennent ici. Et moi, je trouve ça vraiment génial de se dire, ben voilà, t'as une super bonne pote. Et même ses amis, tu les kiffes de ouf. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégage, qui est super cool. Ou même l'été dernier, quand on faisait quelques soirées avec des amis en commun, ou plutôt des amis à moi, à chaque fois, ça passait super bien. Et ça, c'est cool, quoi.
Ouais, genre nos amitiés individuelles finissent par être des amitiés un peu plus collectives, quoi.
Ouais.
C'est ça qui est trop cool. Mais je pense que parce que t'as souvent des amis qui te ressemblent, donc si t'aimes bien quelqu'un, c'est assez rare de pas aimer les personnes qui fréquentent, tu vois. Ça peut arriver, tu vois, mais...
Donc...
Et limite, t'as la sensation que t'apprends un peu plus à connaître l'autre quand tu vois aussi ces autres relations qu'il peut avoir avec les autres gens. Tu fais « Ah, donc ça peut venir de elle ou de lui. » C'est trop bien, en vrai.
Ouais.
Pour revenir un peu sur ton compte Instagram, donc tu suis pas du tout ce qu'elle fait
Je suis ses posts, mais du coup je me suis désabonné de ses stories parce que je t'avais dit, je crois.
C'est là où elle raconte un peu ses aventures.
Ouais, mais en fait, même quand.
Sa life.
En fait, quand t'étais revenu à Strasbourg, il y a des fois où je regardais les stories le matin et j'étais là, ah mais attends, il y a deux jours il s'est passé ça, genre je le sais pas. Et genre, je le prenais pas mal parce que j'attendais pas à ce que tu me le dises avant en message et puis. Mais il y avait ce truc où je préfère largement qu'on attende de se voir et qu'on se raconte tout. Et puis, il y a quand même un format différent où toi, tu vas l'expliquer justement à tes abonnés d'une certaine façon.
Ouais.
Et totalement en vrai.
Et bah avec un filtre, qu'avec toi, elle va moins se gêner.
Enfin, un filtre littéral, en fait. Genre, j'ai pas l'habitude de voir avec deux petits soleils sur les joues comme ça. Ça, j'ai dit, okay, elle a changé pendant la nuit, genre. Donc non, c'est bien. Mais juste les posts, comme ça, je vois je vois les
petits. Si, parfois, tu m'envoies quand t'as un post que t'as bien aimé, tu m'envoies toujours un message pour me le dire.
Ouais, je te le dis.
Quand il y a des posts qu'il aime bien, il m'envoie en mode trop cool ton dernier post et tout. Ou alors même, il y a des posts où après on a voulu en discuter en vrai et tout, pour parler de ça. Bah, des trucs qui parlent pas forcément d'écologie, mais qui parlent un peu plus de relations, de confiance, de trucs comme ça, ouais. Mais moi j'aime bien quand c'est pas des gens qui me connaissent qui me suivent. Ça me stresse quand c'est des gens qui me connaissent parce que je me dis. Qu'ils ont beaucoup plus de vérité que les autres et de clés, et du coup je suis là, genre, j'aime bien dissocier les deux. Même quand il y avait des gens de ma promo qui avaient commencé à trouver mon compte Instagram et tout, c'était une angoisse. Ils étaient tous vus s'abonner au fur et à mesure, je disais non. Même mon coloc, moi j'aime pas du tout que mon coloc il regarde ce que je fais et tout, j'aime bien que ce soit vraiment deux univers un peu différents. Et c'est aussi pour ça que
j'aime pas trop montrer mes relations sur sur Instagram, quoi. On voit des stories où il y a des gens qui apparaissent, mais
et le truc, qui c'est, on connaît rarement leur prénom.
Ouais, c'est ça. Et puis je les montre vite fait. Par exemple, l'été dernier, enfin, je pars toujours en vacances avec une grande bande de potes de Paris, et les gens les voient, tu vois, mais ils savent pas comment ils s'appellent ou qui ils sont pour moi et tout. Enfin bref, on s'en fout. Le seul truc où justement ça m'a questionné, c'est que là, pendant le confinement, comme j'étais toute seule avec mon hôte, bah il y avait ce truc où je me suis rendu compte qu'en l'exposant plus régulièrement, parce qu'on vivait ensemble et que lui, ça le dérangeait pas. En fait, les colocs avec qui je vis n'aiment pas du tout les réseaux sociaux, ils veulent pas du tout être affichés, donc c'est pour ça qu'on les voit jamais. Mais par exemple, mon autre, il s'en foutait, même s'il avait pas forcément envie qu'on dise comment il s'appelle et tout, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que plus tu montres un peu tes relations, quelles qu'elles soient, tu vois, et les gens, ils ont tout de suite envie d'en savoir un peu plus, et tu reçois des messages où tu dis, attends, mon compte, c'est pas ça, tu vois, genre moi, je parle d'autre chose et tout, et c'est pour ça que je parle pas vraiment de mes amis, même de ma sœur ou de la famille, en fait, en règle générale, j'essaye. Je montre que je suis entourée parce que c'est quand même une part genre que je peux pas enlever de ma vie parce que les gens qui m'entourent, c'est super important. Et que en plus, j'évolue avec tous ces gens-là dans l'écologie et dans tout le reste de ma vie. Mais je vais pas faire une présentation de mes potes en mode « alors ça, c'est Hugo, ça, c'est machin. »
C'est vrai que tu parles énormément de tes amis. Et donc, tout c'est vrai temps. Que moi, je te suis depuis que... Alors, c'est, je sais plus son prénom, mais Ellie Killeuse, elle t'avait partagé quand elle a commencé son année sans achat de vêtements. Donc moi, du coup, je t'ai suivi à ce moment-là.
Bah, c'était au tout, c'était la première année,
c'était
je pense,
au début. Et c'est vrai que t'en parles énormément et tout. Et donc, quand moi, j'ai eu l'idée du podcast, je me suis dit, bah, c'est vrai que je réagis de temps en temps à tes stories et tout. Donc je me suis dit, bah, je vais lui demander pourquoi pas si elle est tentée d'en parler.
Ouais, mais je pense que c'est vraiment presque le truc le plus important dans ma vie. L'amitié et les amis en règle générale, genre je sais pas ce que je ferais sans eux. Et puis ouais, j'ai vraiment de la chance d'en avoir beaucoup. Et que chaque relation individuelle ou collective est tellement riche. Et genre, c'est super important pour moi.
Alors t'as commencé avec un défi par an, maintenant tu fais un défi par mois. Donc tu les annonces en début du mois à tes abonnés. Est-ce que toi, Hugo, ça t'arrive d'en suivre certains ou il y en a certains où vraiment genre non mais l'angoisse, jamais je pourrais faire ça.
Sincèrement, j'en ai suivi aucun pour l'instant.
Ok.
Mais je le fais des fois à rebours. En tout cas, ça me questionne à chaque fois. Mais là, par exemple, je crois que tu reparlais dernièrement du fait de commander par exemple des paniers anti-gaspi et de cuisiner par rapport aux emballages. Et moi, c'est vrai que cette semaine, par exemple, j'en ai beaucoup acheté parce que j'avais vraiment la flemme de cuisiner et de voir en fait la quantité de carton qu'il y a de plastique à chaque fois, ça me faisait du mal. C'est la première fois que j'étais là en mode, mais comment ça se fait, genre j'ai acheté un sandwich et une salade et genre j'ai 6000 emballages et je dois acheter ça. Et du coup, il y a toujours un peu cet effet à rebours où ça vient plus tard. Et je pense que c'est aussi une question où toi, du coup, tu sens de faire ces défis à un moment donné, tu te sens prête, que tu y suives ou pas, enfin voilà. Mais moi, souvent, je suis pas forcément dans ce truc-là, mais il y a ce truc où ça va me questionner, et quelques temps après, ben, ça va changer progressivement. Voilà, le fait, par exemple, que tu privilégies quand même pas mal tout ce qui est achat en vrac. C'est vrai que j'ai suivi un moment, plus trop maintenant, je compte le refaire prochainement. Enfin, il y a un truc comme ça qui se fait où, voilà, même s'il est très proche et qu'elle fait des choses qui pourraient peut-être me pousser, qui feraient peut-être vraiment changer mes habitudes, moi, je le sens pas.
En fait, on n'en parle pas beaucoup.
Non, et puis je pense que ça serait un peu dommage que je me force à le faire simplement parce qu'on soit potes. Et j'aurais pas envie de le faire parce que je fais plaisir. Je pense pas que c'est ton but aussi.
Non, pas du tout, mais c'est pour ça que j'en parle presque jamais. C'est juste une question de laisser de l'espace à l'autre et de la liberté. J'aimerais pas qu'il débarque chez moi avec un gros McDo. Enfin, de toute façon, tu le feras jamais, mais genre...
M'attends pas,
hein. T'as chaud, ça peut partir très vite. mais non, ouais, de se laisser de la liberté chacun de notre côté. Puis de toute façon, en vrai, les défis, j'en parle presque jamais, même à...
À tes potes,
ouais. Ouais, en fait, j'en parle presque pas. En
le
fait,
seul où t'en as parlé, c'était le
monstre d'alcool. Bah parce que là, forcément, ça a impacté notre vie quotidienne,
Que t'as fait en janvier. C'est ça.
J'ai fait en octobre,
octobre,
et j'en ai refait un, mais qui a duré 3 semaines, pas exactement un mois, entre fin janvier et début février, un truc comme ça. Parce que j'avais fait ton anniversaire, j'avais pas bu d'alcool, justement. Pendant le mois vegan, du coup, on en parlait un peu aussi, pendant le mois vegan.
Parce que c'est ce qui impacte le plus dans la manière d'être avec les autres, c'est l'alcool et l'alimentation. Donc
En fait, le truc, c'est que la plupart, après, les défis sont plus dans ma vie perso. Par exemple, si je fais, là, le mois dernier, j'ai fait un mois où j'ai écrit une lettre par jour à une personne, quoi. Et ça, en fait, tu le fais dans ton coin, et donc les gens sont pas forcément obligés de le savoir. Mais après, c'est surtout que
comme j'en parle déjà beaucoup sur les réseaux sociaux, j'en parle pas forcément de ouf dans la vie avec mes potes, quoi. En fait, j'attends que ce soit eux déjà qui... Enfin, s'ils ont envie de m'en parler, ils m'en parlent, quoi. Je laisse tout le temps les gens venir vers moi. S'ils ont des questions, s'ils veulent des suggestions de livres, de documentaires ou trucs comme ça, bah, on en parle. Mais sinon, moi, je vais jamais aborder le sujet. Et là, par exemple, je fais un mois où je fais que marcher partout où je vais, là.
Et ouais, tu prends pas les transports en
commun. Ouais, je le vis de mon côté, toute seule, à me taper des 50 minutes et tout, à pied, machin. Mais c'est pas quelque chose qui va... forcément revenir dans les discussions et les défis en général.
Mais j'avoue quand même que j'avais un peu cette appréhension-là où du coup je suis arrivé sur Insta l'été dernier et t'avais déjà une belle communauté, tu faisais quand même pas mal de choses. Et je me suis dit, attends, on n'a pas trop parlé jusqu'à aujourd'hui, mais tu continuais quand même à pas mal poster. Et j'avais vraiment cette appréhension à un moment en disant, bah, ça se trouve, elle va sans dire de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit, mais que ça revienne trop souvent des discussions et qu'elle essaie de nous convaincre alors que pas du tout. Mais là, on en rigole beaucoup, c'est justement quand quelqu'un te reconnaît en soirée ou dans la rue. Ou,
ça arrive ou souvent.
Dans ça arrive des fois, et puis c'est très drôle, hantise. Quoi. Moi, je l'embête en disant ah, et famous maintenant.
C'est horrible.
Là, directement, Stéphane qui vient de la voir, j'en mets tous les autographes.
Bah, en plus, c'est surtout que généralement, c'est quand on est en soirée, et du coup, bah, je suis pas forcément ultra.
T'as pas envie de faire ça, bah ouais.
Bah, c'est déjà, t'es occupé, et puis il y a des fois où je suis juste bourrée, quoi. Du coup, il y a quand même des moments où il y avait une fille avec qui j'avais parlé pendant une heure au télégraphe, alors que. Aucun souvenir, quoi. Mais ouais, c'est, moi, à chaque fois, ça me met dans un état
de stress.
Et puis toi, t'es à côté, et tu peux regarder comme ça de l'extérieur, moi, je suis là. Avec des perles dessus, en mode
qu'est-ce qu'on va me dire.
C'est vraiment un bon moment, quoi.
Ah ouais, grave. En plus, c'est ce moment où tu fais ah, et tu dis un énorme gros mot, tu dis une grossièreté de ouf pour un truc super intime. Et là, t'as quelqu'un qui arrive, il fait t'es sérieux, là, tu fais et là, tu bégayes, aïe, aïe, aïe. Horrible, horrible.
On arrive un peu à la dernière partie du podcast. Est-ce que vous êtes capable de dire l'un et l'autre deux qualités et deux défauts de l'un et de l'autre?
Alors, défaut.
C'est quoi qui est le plus difficile à trouver? C'est le défaut?
C'est de choisir.
Seulement deux, t'as dit, ouais. Genre, moi, un truc que j'ai toujours trouvé chez toi, c'est énormément de bienveillance. Donc, ça dépend vachement de la personne que t'as en face de toi.
Tu penses que en face de certaines personnes, je pourrais ne pas être bienveillante?
En tout cas, tu vas l'être moins. Tu vas pas le montrer, tu vas pas directement les insulter et tout, mais tu vas être peut-être moins compréhensible, moins dans l'écoute, et ça ne va pas te le reprocher, c'est tout à fait normal.
Je pense que c'est plus sur des questions de racisme ou d'homophobie ou de sexisme, où là, je peux perdre patience sur des notions que je trouve vraiment de base, quoi. Du coup, la bienveillance, ouais.
Ça serait pas exactement de la joie de vivre, mais... ça serait...
Surtout qu'on a parlé
la bipolarité, peut-être.
De l'enthousiasme, mais vraiment genre un très très bel enthousiasme que t'as super souvent.
Ouais, un peu enfant.
Ouais, mais c'est ça que je trouve vachement cool parce que tu vois, quand on s'est rencontrés, t'avais vraiment cette joie que t'arrivais à communiquer qui était super facile et genre tout le monde en rentre dedans, quoi. Et ça, tu l'as pas perdu.
Ouais.
Défaut. c'est vrai qu'au niveau verbal, des fois, tu peux être un peu prenante. Ouais. Mais ça, on en a quand même pas mal discuté. Je trouve qu'on arrive à trouver un certain équilibre. Mais c'est vrai que ça peut être embêtant quand même certaines fois ou sans t'en rendre compte, c'était passionnant tu sais à chaque fois que tu parlais, mais ça faisait trop quoi.
Ouais,
ça faisait
trop. En qualité, mais je pense quand même que tu fais partie des personnes où tu es la personne la plus honnête avec moi dans mon entourage, tu vois. Je pense que t'as vraiment pas peur de me vexer et à raison, tu vois. Je crois que tu m'as jamais vexé en disant quoi que ce soit, mais t'es super honnête, mais avec tout le monde, pas qu'avec moi. T'es super honnête, mais c'est pas de l'honnêteté mal placé, tu vois, c'est pas un truc pour blesser et tout, mais t'es super lucide et je trouve que tu t'arrives bien à cerner les situations et du coup tu trouves toujours les trucs à dire et parfois c'est pas forcément des trucs positifs, mais c'est toujours positif à la fin, quoi.
Okay.
Donc je dirais ça. Mais en fait, aussi, j'aimerais me dire que tu me fais trop rire, en fait, au quotidien aussi, genre, je me marre trop. Genre. Est-ce que ça peut être ça, la deuxième qualité?
Bah, ça peut.
L'humour. Hein. L'humour.
Toi aussi, quand même. Hein, quand
ouais,
même.
Ouais. Bah, en fait, ensemble, après,
mais
je pense qu'on a le même
humour. De rire, enfin.
C'est ça ouais, aussi.
C'est presque fatigant de rigoler.
Grave. Il y a des moments où on fait, ouais, on se reverra demain. Ouais, grave, on se revoit demain, parce qu'on est... Oh, c'est un peu la fatigue, là. Ah, non. Mais ouais, moi, ce que j'aime bien, ouais, c'est aussi, je trouve que t'es super à l'aise avec tes émotions, en règle générale. Et ouais, bah je trouve que t'as pas
moi, contrairement où moi je pense que ça pourrait être un défaut chez moi, où moi je me dis que j'ai toujours la sensation que je dois être justement ultra enthousiaste tout le temps, mmh. et il y a des moments où je suis fatiguée, où j'ai la flemme ou quoi, et j'ai tellement peur que ce soit... comment dire, j'allais dire mal perçu, mais pas mal perçu, tu vois, mais que du coup les gens t'aiment moins à cause de ça, que parfois t'en fais un peu des caisses alors que t'as pas forcément besoin. Et moi je trouve que t'es super à l'aise avec le fait de parfois être saoulé, fatigué, triste, et que tu peux le dire, et tu le dis toujours avec beaucoup d'humour, du coup ça passe. Et du coup en défaut, ouais, je dirais peut-être parfois tu peux être un peu froid, je pense.
Ok.
Et encore. Bah ouais, peut-être parfois le fait d'être extrêmement logique et pragmatique, peut-être que parfois tu peux être pas forcément très démonstratif.
Ok.
Mais perso, je m'en branle un peu. mais je peux le remarquer, peut-être, en fait, je me dis quelqu'un qui peut être plus demandeur, tu vois, que moi, d'affection, genre, explicite, peut-être penser ça, tu vois. Donc je dirais ça.
Il va falloir me payer, en tout cas.
Je sais pas. Peut-être que parfois tu peux être lucide sur des trucs que tu sais qu'il faut pas faire et tu le fais quand même.
Ah, okay, je vois ce dont tu veux parler, très bien.
On a une anecdote ou on en
parle
pas?
Non, mais c'est plus. Genre, il se rend compte qu'il y a certains comportements qui sont motivés par.
Des mauvaises raisons.
Par des mauvaises raisons. Et en étant conscient de ça. Bah, il va quand même continuer à le faire, et genre, t'as l'impression qu'il fait une amnésie, genre, alors qu'on en a parlé 10 minutes avant, en disant ouais, je pense qu'il faut vraiment que je change ça et tout. Et 10 minutes après, c'est en mode hey, j'ai fait ça, alors que c'est complètement l'inverse, tu vois. Et là, t'es là en mode oui, bon, bref. Mais même ouais, ça, en vrai. Fait, ça, je m'en fous un peu, parce qu'à partir du moment où tu te mets pas en danger, physiquement ou moralement, je pense qu'aussi, il y a un peu ce truc où on a aussi besoin de faire nos expériences. Et là, je pense que c'est là peut-être que notre différence d'âge peut se ressentir. C'est que je l'ai connu, quand je t'ai connu, du coup, t'avais 17 piges, 18 ans. Du coup, c'était aussi un peu le moment où tu t'expérimentes un peu plus ta vie solo et tout, machin. Et moi, je pense que je l'avais déjà fait. Parce que moi,
22,
j'ai fait.
Ouais.
J'avais 22, mais c'est surtout qu'en plus, moi, j'ai fait très tôt tout ce genre de prendre un peu ses libertés, de tester un peu ses limites sur plein de sujets, tu vois. Et comme moi, je l'ai fait à 14 ans, j'avais déjà eu cette expérience. Et du coup, parfois, je peux sentir qu'on a un petit peu ce décalage où moi, j'ai l'impression que j'ai déjà eu des expériences et du coup, tiré des leçons de trucs que peut-être que toi, tu vis actuellement. Et après, c'est cool parce que ça me permet de toujours avoir un œil là-dessus.
Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé en toi que tu avais quand même pas mal d'expériences, en tout cas sur plein de sujets différents. Et que tu arrivais à chaque fois d'avoir en tout cas un retour assez facile dessus, l'analyser assez facilement, et puis justement d'en prodiguer des bons conseils, quoi. Ça, c'est cool.
Ouais.
Dans les questions que je vous avais envoyées, je vous avais demandé de réfléchir s'il y a une chanson, quand vous l'entendez, si elle vous fait penser à l'autre.
Ouais.
À quelle chanson est-ce que vous avez pensé?
Moi, directement, c'est Purple Disco Machine.
Ouais.
Body Funk.
Body Funk.
Okay. Body Funk de Purple Disco Machine.
Ouais.
En fait, lors d'une des premières soirées que j'ai fait dans ma colocation, je m'étais vraiment mis la pression en mode j'ai vu plein de gens et du coup j'ai fait une playlist. Pendant un mois, j'ai bossé sur une playlist 10 heures, attention en bossant les transitions, etc. En disant ok, il y a des petits qui s'enchaînent. Et j'avais dit aux gens qui venaient écoutez, genre faites comme vous voulez pendant la soirée, ramenez ce que vous voulez, qui vous voulez, juste ne mettez pas de musique.
j'ai bossé trop longtemps sur cette playlist.
Et je m'étais mis la pression, c'était la première fois que j'organisais une soirée et tout, et je me suis dit ok, bon. Je fais les choses bien et voilà, genre. Et la playlist passait et tout allait bien. Et puis à un moment, les gens commençaient à danser. Et puis je me suis dit, on va laisser comme ça. Et à un moment, genre, Célia et son ex sont arrivés et ont débranché mon téléphone et ont mis des musiques comme ça. Puis je les ai regardés. Je me suis dit, bon, bah tant pis quoi. Et en vrai, c'était super cool parce que bon, ils ont mis des super titres, notamment le Purple Disco Machine Body Funk qui a vraiment mis le feu à la soirée. Et depuis, on le met tout le temps quasiment, à un moment ou à un autre. Et tous nos potes le connaissent ses paroles. Et c'est super.
Mais c'est une musique qui fait d'air de ouf parce que les paroles sont ultra bateaux. Et du coup, tu peux. Enfin, en fait, le rythme est super dansant, mais les paroles sont super faciles à retenir et à chanter. Et donc, il y a vraiment une espèce d'osmose à chaque fois sur cette musique où tout le monde fait one, two, comme ça. Genre, c'est trop bien. Moi, je pense que ce serait plutôt Supernature.
Parce que, carrément.
Moi, j'aime fait tout de suite penser à toi parce que bah, c'est.
C'est une chanson de qui?
Alors, Supernatural, c'était fait par
Céron.
Céron, c'était un français dans les années 70 qui était
spécialisé. Ah, c'est un français?
Ouais, qui a fait de la disco. Okay. Et il est devenu super connu grâce à ce titre-là. Et en fait, dans le film Climax de Gaspar Noé, il y a un remix qui est fait tout au début, lors d'une des premières scènes qui est fantastique, où il y a plein de voitures qui dansent pendant 8 minutes.
Mais en fait, je crois que j'ai associé de ouf ce film à Hugo, et du coup, cette chanson à fortiori aussi, quoi. Parce que toi, tu l'avais déjà vu une fois ou deux fois
aussi? J'ai vu trois fois.
Ouais, tu l'as vu trois fois, mais quand t'es allé avec moi, c'était la deuxième ou troisième fois?
Troisième fois,
ouais. Il m'en avait parlé de ouf de ce film en disant qu'il était trop trop bien, mais je pense que j'associe ce réalisateur à toi en règle générale, parce que tous les films de Gaspar Noé que j'ai vus, je les ai vus avec toi. Bon, j'en ai vu deux, hein. Love et Climax.
Dès qu'on regardait Into the Void aussi.
Ouais, grave. Du coup, on était allé le voir au cinéma et après, on a beaucoup écouté la bande-son. Enfin, on l'écoutait beaucoup, beaucoup. À Prague, on est allé chercher l'affiche du film ensemble. Enfin, il y a vraiment un truc où c'est un film qui est beaucoup plus important pour toi que pour moi, même si je l'ai kiffé de ouf. Mais pour moi, il est.
On a beaucoup discuté, il était.
Ouais, non, il était trop bien. Il était trop bien. Mais moi, je pense que c'est un peu l'équivalent de Mommy de Xavier Dolan pour moi. Tu vois, genre, c'est un peu nos deux références mutuelles. Et du coup, cette musique, elle. Ouais, pour moi, dès que je l'entends, ça me fait penser à Hugo. Et c'est pour ça que quand j'ai fait le petit montage de son anniversaire, je l'avais fait sur cette musique. Genre, c'est tout de suite ce qui m'est venu en tête.
Est-ce que vous avez une amitié fictive ou réelle qui vous ressemble, vous inspire?
Oh non, t'as pensé à quoi, toi? Moi, je sais pas, parce que je suis pas très...
J'ai pensé tout à l'heure et je me suis dit...
Oh, j'ai peur.
En regardant le début de la relation, où moi, du coup, j'étais tout le temps avec des chemises, j'avais des fois genre un peu des remarques de vue, en tout cas vachement dans le passé. Je pense pas mal à la relation dans là-haut. Entre Carl et Russell, ou du genre, il y avait moi en tant que vieux papy, du genre des fois peut-être un peu ronchon, et toi très jovial, très enthousiaste et tout, et du genre tout le temps en extase.
Grave! Bon, et... t'es plus du tout comme.
Non, plus du tout, mais on a quand même pas mal évolué de ce côté-là.
Limite maintenant, ouais, ça serait plutôt Russell et le chien, quoi.
Ouais, bah il y a toujours le chien, le double de là-haut, genre c'est. Ouais.
En même temps, dans ce film, le vieux évolue aussi vachement
à la fin, il est trop
de l'enfant, quoi.
Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un peu ce côté-là, en tout cas, dans notre...
Mais ce qui était drôle, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'était moi la plus âgée, mais quand on nous voyait, surtout au début, je faisais vraiment beaucoup plus gamine que toi, quoi. T'étais si sérieux quand on
t'a rencontré. C'est un peu l'effet Benjamin Button, quoi.
Grave. Ouais. En fait, t'étais vraiment super... C'est le jour et la nuit, comment t'es maintenant et comment t'étais avant. C'était super sérieux, tu sortais pas de ouf et tout. Mais c'était le début, là, on commençait à sentir qu'il y avait un truc à en tirer, tout ça. Et... En fait, c'est un peu le mélange, c'est le cocktail de nous deux qui a fait... Tous les deux, on est devenus, genre...
La
pire version de nous-mêmes. Mais oui, j'avoue, c'est pas mal, mais comment t'as pensé à ça, même?
Je sais pas, j'ai pensé tout à l'heure en mangeant mon petit poisson, et tout. Il y a peut-être un peu quelque chose. Puis moi, c'est un film que j'aime beaucoup.
Grave, il est trop trop bien.
Ouais, et je pense qu'il y a un peu de ça.
Ou peut-être, comme... Non, je pense que tu l'as pas vu. C'est dans L'Âge de glace. 3 ou 4. Quand il y a les deux opossums.
Oui, ben oui.
Voilà,
oui,
eux,
ben
tu vois, eux, voilà, qui se ressemblent physiquement et qui sont un peu genre les deux qui vont faire des conneries ensemble. Ils sont un peu genre les deux diables qui se posent sur les épaules comme ça. Et qui disent non, on va pas réviser, va voir. Je sais comment ils s'appellent. Eddie et je sais plus quoi.
Ouais.
Bref, à eux, je pense que ça peut être. En fait, souvent les duos comiques de dessins animés, je pense que ça pourrait être un peu ça. Comme les élans dans Frères des ours, tu vois.
Il y a un peu de ça, ouais, sur des duos un peu comiques comme ça.
Duos un peu comiques et un peu ceux qui viennent foutre un peu la merde. Ouais. Mais
un peu borderline.
Mais toujours en étant gentil, tu vois.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter individuellement, mais aussi à vous deux, pour la suite?
De la moulaga.
Si vous pensez à ça. La moulaga.
La grosse moula. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Que les clubs
réouvrent rapidement. Ouais, ça serait bien, hein, parce que là, ça devient difficile.
Chez les mecs qui tremblent.
Oh là là, non, ça devient difficile.
Non, bah que...
Peut-être, je sais pas, peut-être un peu plus... peut-être d'espoir dans l'avenir. Apparemment, c'est bien de croire en ça.
Apparemment.
C'est les on-dit, ça. Ouais.
Quelqu'un m'a dit que c'était
assez, bon. C'est assez trendy en ce moment, il faudrait qu'on teste. J'ai des potes conseillers, ça passe.
Ils disent ça dans Cosmo.
Ouais.
J'ai fait le test. Ouais. J'ai vu 12
triangles. Quel sac à main êtes-vous? Non, mais en vrai, c'est peut-être de l'argent pour être serein au quotidien.
Je pense qu'il y a de
plus
ça.
Surtout pour,
je pense qu'il y a de ça. Parce qu'il y a quand même dans nos histoires, il y a toujours ces problèmes d'argent qui n'ont pas forcément été là tout le temps, mais quand ils étaient là sur une période un peu plus longue.
Ils ont pris beaucoup d'énergie quand même.
et qui nous a fait quand même pas mal. Hein.
Alors qu'on n'est pas des flambeurs du tout, hein, genre on ne flambe rien, mais juste avoir de la... Enfin, parce qu'on achète tout notre budget, il part dans la bouffe ou les sorties, quoi, c'est tout. Et juste avoir de l'argent pour être pas stressé.
Et encore, même au-delà des sorties, il y a des moments où, ouais, voilà, t'as pas de thunes, et ça te mine, ça te plombe vraiment le moral.
Bah, tu refuses des sorties, tu refuses de voir des gens, et puis ouais, des sorties... De l'épanouissement scolaire et professionnel.
Des belles rencontres.
Ouais, c'est ça. Franchement, en fait, on vit bien. Hein.
Ouais.
Découvrir des livres toujours cool.
Je demande en général à mes invités qu'ils se laissent un message à chacun et que donc l'autre entendra qu'à la diffusion de l'épisode.
D'accord.
Ah donc vous pouvez vous dire ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment votre
moment. Ah, c'est trop drôle.
Célia, comme plein d'autres d'activités que j'ai faites avec toi, comme plein de nouvelles activités que j'ai pu découvrir, du coup ce petit podcast a été un vrai plaisir en tout cas. Genre on apprend toujours des choses l'un sous l'autre. Ouais, toujours dans la sympathie. En tout cas, je tenais vraiment à dire que notre amitié compte énormément et qu'on va espérer que ça continue le plus longtemps possible.
T'es gêné?
C'est dur de vouloir faire un bilan. De dire des choses, enfin, sachant qu'on se les dit pas ou quand on se les dit, enfin, ça coule tellement de sources au quotidien. Et voilà, je sais pas trop quoi rajouter de plus.
Bon, lui-même, il sait, hein, que je crois pas au destin, que je crois pas en Dieu ou quoi, ou des trucs comme ça. Moi, je crois au hasard le plus total de la vie et que les choses arrivent sans raison et que souvent on cherche, nous, des raisons pour essayer d'expliquer les trucs et tout parce que ça nous rassure. Nous, on est un peu sur la même longueur d'onde, en mode, il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucune source et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de plan et tout, machin ou quoi, il n'y a pas de destin, c'est juste les choses arrivent comme ça. Et du coup, je suis contente que les choses qui arrivent sans raison ont fait qu'à un moment donné, on s'est rencontrés, lui et moi, et puis les autres personnes qui sont autour de nous. Et que je pense que la personne que je suis aujourd'hui, et dont je suis de plus en plus fière, enfin plus le temps passe et plus j'ai l'impression que je me rapproche de quelqu'un que j'aime vraiment, et ben je pense que ça n'aurait pas été possible sans lui et sans les autres personnes très importantes qu'il y a dans ma vie. Et du coup je suis contente de me dire qu'il y a quelqu'un dans mon entourage avec qui je peux parler aussi facilement, avec qui je me sens aussi bien, et surtout avec lequel tu te dis... Je crois qu'on en avait parlé une fois ensemble. Je pense que pour moi vraiment le climax de l'amitié, c'est quand tu peux t'ennuyer avec la personne avec qui t'es amie, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se voir et se dire on va parler pendant 1000 ans ou il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ça va être juste genre se poser avec un café par exemple un dimanche et pas être obligé de trouver forcément des trucs à dire, forcément des trucs à faire, mais juste te dire que rien que la présence de l'autre personne suffit. Pour moi, ça veut dire que là t'as trouvé quelqu'un de bien avec qui t'as construit quelque chose de vraiment fort, quoi.
Tu peux revenir ?
Oui.
Et bah du coup
et vraiment, ça a fait
ça a été si précis.
Ouais.
D'accord.
En fait j'avais répété depuis déjà ça fait 8 ans que je prépare ça. C'était mon moment dans ma carrière.
Et bah hâte de découvrir ça là, hein.
Bah du coup merci à tous les deux, merci d'avoir livré votre histoire.
Oui. Merci,
et
merci à toi d'être venu.
Ouais, c'était trop cool.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Pour me soutenir et aider le podcast à se faire connaître, n'hésite pas à t'abonner, et si tu écoutes sur Apple Podcast ou Podcast Addict, tu peux laisser 5 étoiles et un commentaire, d'abord pour me dire ce que tu penses de Friendship, mais aussi pour aider au bon référencement du podcast. Tu peux également en parler autour de toi, le bouche à oreille reste un des meilleurs moyens de se faire connaître aujourd'hui. Je te donne rendez-vous sur Instagram, Facebook et Twitter pour suivre toute l'actualité du podcast. Et si toi aussi, tu souhaites témoigner avec un ou plusieurs de tes amis, écris-moi sur ces différents réseaux, je serai ravie de t'accueillir à mon micro. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de profiter au maximum du temps passé avec tes amis, et je te dis à très vite dans Friendship.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast « Friendship ».
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.